Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Un nouveau journal avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et les Français sont appelés à se ressaisir.
Il y a visiblement du laisser-aller dans les gestes barrières. En tout cas, le nombre de contaminations au coronavirus est en hausse. Le Premier ministre annonce de nouvelles mesures. Pendant ce temps, la Russie annonce avoir trouvé un vaccin contre cette épidémie, mais Moscou doit encore convaincre. Dans ce journal, vous entendrez la sœur de Charline, 30 ans. La jeune femme fait partie des jeunes humanitaires tués dimanche au Niger. La cerise sur le gâteau d'anniversaire, pourquoi pas? Alors que le PSG fête ses 50 ans aujourd'hui, il affronte l'Atalanta Bergame ce soir et peut espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Dans un quart d'heure, on prendra des nouvelles de cette marée noire qui menace les eaux paradisiaques de l'île Maurice et qui a d'ailleurs déjà commencé à faire beaucoup de dégâts. Le wrakier japonais échoué le 25 juillet dernier menace toujours ce matin de se briser en deux. On appellera un océanographe qui est là-bas à l'île Maurice. On lui demandera s'il est toujours temps d'éviter la catastrophe.
RTL Matin.
Les bons signaux concernant le coronavirus ne sont pas bons. Il faut réagir et vite.
Sans parler de seconde vague, pour l'instant, les contaminations augmentent jour après jour, tout comme le nombre d'hospitalisations. Pour enrayer ces premiers signes de reprise, plusieurs mesures ont été annoncées par le Premier ministre hier, Jean Castex. Voyons lesquelles avec vous, Patrick Tégéraud.
Eh bien d'abord, l'obligation du port du masque est en voie de généralisation. C'est la principale annonce faite par le Premier ministre.
Dans 330 communes, l'obligation du port du masque a été édictée dans les zones publiques les plus fréquentées. Il nous faut aller au-delà, et telle est l'instruction qui sera à ce jour adressée au préfet.
Jean Castex a aussi annoncé des tests plus nombreux et plus ciblés, une communication à l'égard des plus fragiles et des plus jeunes, mais aussi une sévérité accrue pour faire respecter les mesures.
Respect des gestes barrières, du port du masque, des obligations de déclaration des rassemblements de plus de 10 personnes, contrôle du respect notamment dans les lieux clos, dans les restaurants, les débits de boissons et dans les espaces publics concernés par l'obligation du port du masque. Ce renforcement de nos contrôles mobilisera nos forces de police et de gendarmerie sur le terrain et conduira à verbaliser les manquements quand ils seront constatés.
Et le Premier ministre insiste sur la responsabilité de chacun d'être solidaire par sa discipline et sa vigilance. Il y a 3 semaines, on enregistrait 1000 nouveaux cas par jour. On en est à plus de 2000 aujourd'hui.
Patrick Tégéraud pour RTL. La Russie, elle, Vladimir Poutine en personne, annonce qu'elle a développé un premier vaccin contre le coronavirus. Il s'appelle Spoutnik, rien à voir avec le satellite. En revanche, il suscite de nombreuses réactions. Alors que l'OMS appelle à la prudence, de nombreux pays se disent sceptiques. Et pour cause, Sophie Jousselin.
Oui, fabriquer un vaccin en quelques mois, c'est possible. Qu'il soit efficace et sans danger, c'est autre chose. Et jusqu'à maintenant, la Russie n'a pas fait la preuve de l'efficacité ni de l'innocuité de Spoutnik. On sait qu'il a été mis au point par le ministère de la Défense et le Centre d'épidémiologie russe, qu'il a été testé sur des militaires et c'est tout. Moscou a gardé secret les résultats de ses essais, ce qui est contraire au processus de validation mis au point par l'Organisation mondiale de la santé. Une attitude qui sème le trouble dans la communauté scientifique. La Russie annonce que le personnel médical et les enseignants seront vaccinés dès le mois de septembre, en janvier prochain. Ce sera au tour de la population russe et peut-être d'autres pays. Une vingtaine se sont dit intéressés par la piqûre miracle du docteur Poutine.
Les explications de Sophie Jousselin.
On verra ce qu'il faut penser de ce vaccin russe annoncé en personne par Vladimir Poutine. Coup de bluff ou véritable espoir contre le coronavirus? Le virologue Jean-François Saluzzo sera notre invité à 8h20.
Au Liban, la démission du gouvernement avant-hier ne suffit pas. La population réclame le départ de l'ensemble de la classe dirigeante. Hier, une semaine, jour pour jour, après la double explosion qui a soufflé la ville, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour rendre hommage aux victimes, mais aussi, une nouvelle fois, crier leur colère.
11 enquêteurs français viennent d'arriver au Niger.
Après l'attaque qui a coûté la vie à 8 personnes dimanche, dont 6 jeunes humanitaires français, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Emmanuel Macron a assuré aux familles des victimes que ce crime ne resterait pas impuni. Parmi ces dernières, Charline, 30 ans, pour qui aider les autres était une vocation, comme l'explique sa sœur, Sarah, à Frédéric Veil.
C'était quelqu'un de entière, qui avait le cœur sur la main, qui voulait toujours aider, qui voulait toujours apprendre, toujours apprendre. C'est la première fois qu'elle a travaillé pour une ONG, mais ça a toujours été en elle, en fait, l'injustice, elle ne pouvait pas le supporter, il fallait qu'elle agisse.
Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes dans une tristesse infinie, vous, votre famille.
Oui, il n'y a pas de mots, c'est un tout, c'est la perte, c'est la colère, c'est l'inacceptable. Enfin, voilà, le fait que ce soit un attentat, ça rajoute au fait de pas accepter ce qui s'est passé et d'être dans l'incompréhension. Après, il y a aussi les circonstances. On a attendu des heures et des heures dans le doute, dans l'angoisse. Même si au fur et à mesure, les taux se resserraient et on n'avait toujours pas de nouvelles. Et au fond, nous, on le savait, mais ça a été très très long. L'attente est horrible dans ces moments-là. Et voilà, et il y avait eu des photos qui ont circulé. J'avais pas envie de voir ma sœur assassinée sur une photo, quoi.
Un témoignage recueilli par Frédéric Veil pour RTL. À Paris, un homme porte plainte pour une agression antisémite dont il a été victime jeudi. Il a été retrouvé inconscient dans la cage d'escalier de ses parents alors qu'il était allé chercher sa petite fille. Il dit avoir été pris à partie par deux hommes dans l'ascenseur, des individus qui l'ont traité de sale juif et qui lui ont volé sa montre. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, a adressé un message de soutien à la victime. Ses actes et ses propos, dit-elle, n'ont pas leur place à Paris.
Boris Johnson hausse le ton. Il veut mettre fin aux traversées illégales de la Manche.
Autrement dit, à l'arrivée d'immigrés sur le sol britannique qui se multiplie avec des réseaux de passeurs de plus en plus organisés. Le Premier ministre envisage de recourir à la Royal Marine pour stopper les embarcations. Pour l'heure, les tentatives continuent depuis Calais, surtout en ce moment, Antoine Decarne.
Sur un rond-point, aux abords de l'hôpital, une fontaine d'eau a été installée par les associations. Une cinquantaine de migrants sont là, parmi eux Rusbés et Mauritaniens. Il est arrivé à Calais il y a 10 jours, car c'est le meilleur moment pour tenter sa chance.
Je suis venu ici pour rejoindre l'Angleterre. Je vais prendre un bateau, c'est dangereux, mais en ce moment j'ai une réelle chance. J'espère qu'en un essai j'y arriverai.
L'espoir est là car ces 3 derniers jours, plus de 500 migrants ont réussi leur traversée de la Manche. Avec la canicule, les conditions sont idéales, explique Bernard Baron, le patron des sauveteurs en mer.
Les passeurs ont bien compris la chose et ils profitent de traversées calmes de la mer, l'absence de vent pour mettre des gens sur des bateaux, et c'est aussi rentable pour eux.
Rentable parce que les prix sont élevés, montés sur un bateau coûte entre 3 et 7 000 euros. Et du coup, les conditions à bord se sont améliorées.
Ils ont tous des téléphones, ils savent très bien où ils vont avec les GPS. C'est plus maintenant des barcasses comme autrefois. Maintenant, ils ont parfois des bateaux neufs. Hein.
Et le business fructueux des passeurs leur permet d'avoir plus de bateaux. François Guénoc, de l'association L'Auberge des Migrants.
Les passeurs ont amélioré leur technique. Il y a des départs simultanés de bateaux. Ils lancent 7, 8, 10 bateaux en même temps, ce qui disperse évidemment les efforts de la gendarmerie.
Et donc, les tentatives aboutissent. Près de 70% des bateaux arrivent en Angleterre, d'où le courroux britannique.
Le reportage d'Antoine Decarne à Calais pour RTL. Une journée mouvementée en perspective à Nantes. Une deuxième réunion doit avoir lieu à 9h pour fixer les modalités du plan de départ volontaire pour Hop, la filiale d'Air France. Le réseau domestique pourrait perdre la moitié de son poids en termes d'effectifs.
RTL, il est 7h09. Cette question, Agnès. Et si l'année 2020 était enfin la bonne pour le PSG?
Ce soir, en tout cas, les Parisiens ont l'occasion de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le club fête ses 50 ans aujourd'hui. Ça lui portera peut-être chance. Il part favori contre l'Atalanta Bergame, mais attention Philippe Sanfourche, les Italiens arrivent d'une région meurtrie par le coronavirus et leur mission n'est pas que sportive.
Oui, Bergame, ville symbole, capitale de cette Lombardie submergée par le virus il y a 5 mois. Alors que l'Atalanta signait son exploit européen face à Valence, les sirènes ne cessaient d'hurler jour et nuit aux portes de centres de soins débordés. Plus de 7000 personnes y auraient trouvé la mort dans une ville d'à peine 120 000 habitants. Cité martyre pour laquelle un hymne a été écrit, repris depuis par toute l'Italie. Je vais renaître, tu vas renaître, résonne avant chaque match de l'Atalanta. Gianpiero Gasperini, l'entraîneur de l'équipe, ne cache pas que le match de ce soir dépasse aussi le cadre sportif.
C'est une motivation en plus par rapport à ce qui s'est malheureusement passé. Nous devons représenter de la meilleure manière qui soit notre ville. montrer notre capacité à réagir, à repartir et si possible, comme je l'ai souvent dit, de redonner du sourire aux gens.
Et ce même si l'Atalanta devra se passer de son attaquant vedette, Josip Ilicic, le Slovène tellement marqué par le nombre de disparus qu'il s'est depuis réfugié dans son pays d'origine, incapable de rejouer au football. Quando tutto
sarà... Philippe Sanfourche, que vous retrouverez dans Soir de Ligue des Champions sur RTL autour de Jean-Michel Rascol. Ce sera à partir de 20h45. Nous vous ferons vivre évidemment le quart de finale PSG-Atalanta-Bergame. Et puis sachez que Michel Denisot, l'ancien président du club, sera l'invité d'Amandine Bégot ce soir à 18h. Toujours en foot, qualifié sans jouer. Elle est pas belle la vie. Les Rennais participeront à la phase de groupe de Ligue des Champions. Une première pour le club breton et ce grâce aux qualifications de Manchester United. United, de l'Inter Milan et du Shakhtar Donetsk, ainsi que du FC Séville. Répétition générale avant le Tour de France, début du Critérium du Dauphiné aujourd'hui à Clermont-Ferrand, l'occasion pour les organisateurs de tester le dispositif sanitaire avant le départ de la Grande Boucle le 29 août depuis Nice.
Marina nous le disait avant ce journal, il y a encore de nombreux départements en vigilance rouge, canicule.
Sans compter les orages qui désormais s'en mêlent. Pour éviter d'avoir trop chaud, certains parfois font des exercices de visualisation. Imaginez-vous en train de skier, avoir froid aux pieds, aux mains. Encore mieux, il est possible de dévaler des pistes en plein été. Oui. Pour de vrai, Amnéville, en Lorraine, propose le seul complexe du pays pour s'adonner à la glisse en intérieur. De 40 degrés dehors, vous passez à moins 2 à l'intérieur. N'oubliez pas votre écharpe, Dimitri Ramelot, et surtout, surtout patience au téléski, car il y a du monde.
Oui, à peine garé sur le parking, Maxime sort sa paire de skis du coffre plus que quelques mètres avant l'entrée pour sa première visite au Snow Hall et le petit panneau qui annonce la température à l'intérieur.
Tu vas faire moins 2 ça va faire du bien. On va être là, voir la crève en sortant peut-être. Après, peut-être que le choc thermique il va peut-être nous calmer, mais on va voir. De skier en plein été, ça change.
Et le choc thermique est violent. Bonnet, combinaison et gants obligatoires. François a tout prévu pour ses deux petites filles qui viennent prendre des cours de ski.
C'est une bonne idée en général pour faire un peu de sport, mais aussi quand il fait très chaud, évidemment. Il fait dans les 0 degrés un peu moins. Ah ben, c'est très sympa. Elles y vont une heure, elles font des progrès. Ça meuble les après-midi aussi.
Et l'après-midi, Jim va le passer sur la piste de 620 mètres au dénivelé de 92 mètres. Beaucoup trop chaud pour rester chez lui.
Il fait 40 degrés. Et puis à Amnéville, il n'y a pas trop de lacs, il n'y a pas trop de piscine, du coup on va se rafraîchir au Snow Hall. Le programme, c'est se faire 3-4 heures de snowboard. C'est plaisant de retrouver des sports d'hiver en plein été, quoi. Ça va nous faire du bien.
Et parmi les autres disciplines possibles, avec chacune un secteur délimité, la luge ou le saut à ski.
Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Touchous, on est en retard.
Les courses ont lieu aujourd'hui dans la belle ville d'Enghien-les-Bains.
Exactement, les pronostics sont signés Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 4, le 12, le 5, le 10, le 15, l'As, le 14 et le 13. Dernière minute, le 5 divine de Navarre.
Merci beaucoup Agnès Monfillon. Il est 7h13 sur RTL.